Qu'à 9h au studio 104 de la Maison de la Radio, inscription gratuite sur le site de la Maison de la Radio et de la musique.
Vous écoutez France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On continue aujourd'hui notre série sur les enfants de la guerre avec l'histoire de quatre enfants afghans qui sont partis juste avant ou après le retour des talibans en 2021. Sauf qu'en réalité, ça n'est pas véritablement une guerre qu'ils ont fui, car la victoire talibane a justement signé la fin de la guérilla qu'ils ont menée sans relâche contre les Américains depuis 2001, grignotant petit à petit la totalité du territoire à coups d'attentats, d'embuscades, de kidnappings et d'assassinats. Aujourd'hui, à l'intérieur, paradoxalement, le pays est plutôt calme et relativement sûr. Ce qu'ont fui ces enfants et leurs parents, c'est en réalité la folie réactionnaire et fondamentaliste de ces religieux qui interprètent la charia d'une façon tout à fait obscurantiste, l'instrumentalisent pour maintenir leur pouvoir, en particulier sur les femmes, qui n'ont en Afghanistan plus aucune perspective. Il faut préciser qu'une partie de la société afghane, profondément patriarcale, est assez en phase avec cette politique, surtout la partie masculine. Les autres tentent de fuir ou de vivre comme ils peuvent. Deux des enfants qu'on va entendre sont des enfants de journalistes travaillant à la fameuse radio Begum. Deux autres avaient déjà leur père en France. On les écoute tout de suite au micro délicat et obstiné d'Alice Durieux parler un français impeccable pour des enfants qui l'ont appris depuis à peine quelques années. Bravo à eux et à leurs enseignants.
Je m'appelle Dina et j'ai 12 ans. Je suis née en Afghanistan et maintenant je suis au Havre. Et ça fait 2 ans et demi que je suis en France. Quand je suis partie, j'avais 8 ans. Ici, j'habite avec mes parents et avec mes frères et sœurs. J'ai 3 sœurs et 2 frères. En Afghanistan, j'habitais en Jalalabad. Et j'ai vécu avec mes grands-parents, chez mes oncles. On était tous ensemble. C'était une grande maison. Il y avait le jardin, il y avait des fruits, il y avait du citron, les oranges, du raisin. Trop bon. Et moi, j'aimais quand il était vert. Ça piquait. J'aimais trop. C'était mon préféré. Les feuilles de raisin, j'adore. Je le mange. Et je le mangeais avec du sel. Et c'est bon. Mais ma grand-mère, elle m'a crié, elle m'a dit « Tu vas rentrer malade. C'est pas bien pour le ventre. » Mais je l'ai mangé quand même. Je me rappelle que quand il y avait le soleil, je prenais le matelas et on le met sous un arbre et on assis, on parlait avec mes cousines, tranquille. Et après, me faire comme ça, le massage et tout. Et après, j'allais dormir. Et parfois, on allait à côté de rivière et on boyait du thé vert, tranquille. Boire du thé vert près de rivière, c'est trop bien. Quand j'y pense à ça, je me sens triste. En Afghanistan, j'avais fait 1 an à l'école. On était dans une classe que à gauche, il y avait les filles et à droite, il y avait des garçons. Du coup, on n'était pas à côté, mais on était dans la même classe. Moi, j'aimais à l'école. Mais les talibans sont arrivés en 2022. Ils ont fermé l'école pour les filles. Pendant 1 an, je ne pouvais plus aller à l'école. Puisque je n'allais pas à l'école, j'ai resté à la maison avec mes cousines. J'étais triste. Les garçons, ils continuent d'aller à l'école. J'étais en colère. Je dis pourquoi les garçons et pas les filles? Alors pourquoi? J'ai demandé à mes parents, j'ai demandé à tout le monde. Ils m'ont dit, demande à Taliban. On ne sait pas. je me sentais vraiment fâchée contre les talibans. Les talibans avaient des grandes barbes et des grands cheveux. Parfois, je les voyais dans les rues. Ils sont toujours fâchés et armés et criaient toujours sur les gens. Moi, j'avais trop peur. J'étais stressée. J'y croyais toujours qu'ils vont me tuer, quoi que ce soit. Du coup, je sortais pas trop de la maison. Et quand ils voyaient des filles, « Pourquoi tu portes pas le burqa? T'es grand et tout. » Genre, ils disent ça. Après, ma grande sœur, elle a porté le burqa. Et elle était un petit peu stressée parce qu'elle ne savait pas marcher dans le burqa. C'était dur pour elle parce que le burqa est trop grand. Et elle avait un petit peu triste parce que ce n'était pas comme avant, jouer avec ses copines et tout. Maintenant, elle avait 14 ans comme ça. On est resté encore un an en Afghanistan et après, on était venu en Iran. Et après d'Iran, on est venu en France. Mon père était déjà là en France. Il a passé 8 ans dans la France. Et quand je l'ai revu, c'était à l'aéroport. Je l'ai vu de loin et j'ai couru, je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit, mon cher papa, ça fait longtemps et tout. Et il m'a pris un bisou, il m'a dit, oh ma petite fille et tout. Il m'avait acheté des chocolats de France. Il m'avait acheté des petites poupées, des trucs pour jouer. Et après, on était allés au Havre, là-bas, à la maison de mon père. Et maintenant, on habite toujours au Havre. Quand je suis venue en France, j'étais contente parce que pas de talibans et pas de problème. Ce qui m'a le plus choquée, c'est les femmes qui portaient les vêtements comme les garçons, qui avaient des jupes et qui fumaient. J'étais choquée. Maintenant, j'ai l'habitude. Je dis que c'est pas grave. C'est eux qui décident, genre. En France, j'étais vraiment choquée parce que je suis allée au cinéma la première fois. C'était un grand télévision et tout le monde a chuchoté et écouté. C'était vraiment magnifique. On avait regardé le Roi Lion. Moi, j'avais pas entendu parler du cinéma, du zoo. Je connais même pas. J'étais joyeuse parce que j'ai mon père. Et voilà, il y avait l'école et tout. Je dis que je vais apprendre des trucs maintenant. C'est trop bien. Au début, quand j'étais allée à l'école primaire, j'ai fait un an à l'école primaire. Et je sentais pas très bien parce que j'avais pas des copines dans l'école. J'ai resté avec mon frère. Et je savais pas parler français, il y avait pas des copines. Et après j'étais venue en collège, il y avait plein d'Afghans. En plus, il y avait mes deux sœurs. Du coup, j'étais moins stressée. J'étais dans la classe de Monsieur Marchadour. En plus, Monsieur Marchadour était trop, trop gentil. C'est le prof de NSA. Le NSA, c'était une classe pour étrangers. Le début, on a parlé tout le temps en pachtou. Et même M. Marchadour a fâché parce qu'il ne comprenait pas. Après, on a appris petit à petit un petit peu le français et après, on a parlé avec M. Marchadour aussi. Maintenant, M. Marchadour, il essaye de prendre le pachtou. Il est vraiment gentil. Il fait comme s'il est notre père. Quand on a un problème, on vient, on dit à M. Marchadour, il règle le problème. Voilà. Moi, j'aime dessiner Je fais des peintures. J'aime bien dessiner des montagnes et des arbres, des oiseaux et tout. Et quand je dessine avec un crayon, je dessine des humains. Ça, c'est mon carnet. Et j'ai dessiné des petites souris, les mangas, des filles et des garçons qui font des grimaces. Ça, c'est une femme avec le burqa et qui regarde dans le miroir, mais il voit son visage avec le costume de diplômé. C'est ses rêves, être diplômée. Et elle n'a pas complété, genre les talibans sont venus. Et elle a dit, les filles, plus d'école. Et maintenant, elle est triste. Toutes les filles afghanes, la rêve qu'eux, ils avaient, il est resté dans le cœur. Moi, j'aimerais bien faire infirmière. J'espère que je vais arriver. En fait, en France, c'est pas comme l'Afghanistan. Je peux faire mon travail, mon métier, et je peux gagner de l'argent pour moi-même. Ça, j'aime bien. J'aime pas demander aux autres, donne-moi l'argent et tout. Ce qui me manque, c'est mes villages, mes copines et mes grands-parents. Ils sont toujours là-bas. Là, ma grand-mère, elle avait des cheveux courts, blonds. Elle avait la taille très grande. Elle était belle quand elle était jeune. Elle m'a montré son photo. Et mon grand-père s'appelle... je sais plus, là... oh là là, je me rappelle plus. Bah, j'ai oublié le prénom de grand-père. Je les voyais toujours avec des animaux, avec des poulets. Il y avait partout des poulets. Les poussins, elle cuisinait les œufs de poulet. Moi, j'aimerais bien voir mes grands-parents. Un jour, j'espère que je pourrai aller en Afghanistan, comme avant. Ouais.
Je m'appelle Atifa, je viens de Kaboul, en Afghanistan. Je suis en CM2 et j'ai 10 ans. Ça fait 4 ans et demi que je suis en France. Je suis venue en France à cause des talibans. Quand je suis partie, je ne savais pas pourquoi on partait de l'Afghanistan. J'ai cru que c'était un voyage comme les autres et on était partis dans un avion. Je savais pas où j'allais, mais le seul truc que je savais, c'est qu'il y avait la tour Eiffel là-bas. Et j'ai su qu'on n'allait pas revenir en Afghanistan quand on a eu une maison. Peut-être qu'on n'allait plus jamais revenir en Afghanistan. À ce moment-là, j'ai ressenti de la tristesse, mais un peu, parce que les gens, ils étaient gentils. Mais j'étais surtout triste parce que j'allais peut-être plus voir ma famille. Je pouvais toujours les appeler, mais voilà. En Afghanistan, les filles, elles sont surtout à la maison pour travailler et elles n'ont pas le droit de sortir à cause des talibans. Dans la rue, je voyais que des garçons et pas de filles. Les filles en Afghanistan, elles sont oubliées, c'est comme si elles n'existaient pas. Dans mon école, il n'y avait qu'une seule fille, je crois, et il y avait moi. Et sinon, les tous, c'était des garçons. Mais notre maîtresse, elle était une fille. Et cette maîtresse, elle était beaucoup plus gentille que les autres. Parce que j'aime pas trop dans les écoles en Afghanistan, c'est que les maîtres et les maîtresses, ils te prennent une règle et ils te tapent sur la main. Parce que t'as fait un truc pas bien. Moi, mon frère, les maîtres, ils le tapaient beaucoup. Et des fois, quand il revenait de la maison, il avait la main toute rouge. Donc, j'étais plus rassurée avec ma maîtresse que les autres maîtres. Elle tapait pas du tout quand un garçon ou une fille se faisait taper. Elle criait sur les maîtres. Et les enfants, bah, ils se faisaient soigner et la maîtresse, elle lui donnait des bonbons. Moi, je fais beaucoup de cauchemars en ce moment. Dans mes rêves, en fait, je vois des morts. Je vois des talibans, des choses que j'aime pas. Tuer ma famille, et des fois, ils m'avaient tué moi-même. Et je reste un peu traumatisée à cause de mes cauchemars. À cause de mes cauchemars, maintenant, j'ai des phobies. J'ai peur du noir. À chaque fois, quand je suis sur mon lit, j'ai peur qu'il y a des monstres qui viennent attraper mes pieds. Du coup, maintenant, j'ai la phobie de dormir. Des fois, je dors pas du tout la nuit. J'essaie de rester éveillée pendant toute la nuit pour pas faire de cauchemars. Et des fois, je viens me cacher en dessous du lit de mon père et de ma mère et je dors. Parce que quand il y a mes parents, même s'ils sont dans la maison, bah, si je suis pas dans la même pièce que mes parents, je suis pas rassurée. Mais j'ai toujours mon doudou à côté de moi pour si je me réveille, bah, je lui fais un gros câlin et j'essaie de dormir encore une fois. Quand je dors, je mets tous mes doudous autour de moi et je les dis de me protéger dans mon cauchemar. Mon frère, il m'avait dit que les rêves, c'est trop bien. Tu peux avoir des pouvoirs et tu peux avoir tout ce que tu veux vu que c'est un rêve, c'est pas réel. Et j'ai réussi à voler et j'ai tué tous les talibans, j'étais contente. Et quand je me suis réveillée, bah, j'étais de bonne humeur, mais pas très, parce que je savais que c'était pas réel. Et si ça serait réel, je serais vraiment contente que les talibans, ils sont plus là. Mais j'ai envie de m'endormir pour sauver l'Afghanistan encore une fois. Je les mets en prison ou je les lance dans la lune. Des fois, je rêve que je meurs pour sauver l'Afghanistan. Du coup, je suis contente. Un jour, je sauverai vraiment l'Afghanistan. C'est quand je serai grande que je commencerai à aider plus l'Afghanistan. Je parlerai à la guerre d'Afghanistan, à tout le monde. J'essayerai de faire des hôpitaux en Afghanistan parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Des fois, je pleure parce que les talibans, ils ont tué ma cousine. Et ça me fait mal au cœur. Des fois, je ressens vraiment beaucoup la colère et j'ai vraiment envie de les tuer. Un jour, je la vengerai.
Je m'appelle Aboubakar, je viens de l'Afghanistan et j'ai 9 ans, j'habite à Le Havre. Ça fait 2 ans que je suis venue en France. En Afghanistan, j'habitais en Gadrala, c'est une ville. Là-bas, je vivais avec ma grand-mère, ma grand-père, mes parents et les frères de mon père. Et avec mes cousins. Après, il y avait de la guerre et on était sur la maison avec mes cousins et 2-3 adultes. Et après, on avait vu les talibans et les Afghans se tirer les uns aux autres. Quand je les voyais, je me sentais un petit peu peur. À chaque fois quand ils avaient des pistolets, je courais, moi, dans la chambre. Parfois, les adultes, ils parlaient de la guerre, que l'Afghanistan, elle était bien, mais les talibans, ils étaient nuls. Et les autres Afghans, ils étaient gentils, les vraies armées de l'Afghanistan. Ils disaient que avant, le drapeau de l'Afghanistan, c'était noir, rouge, vert, et maintenant, c'est blanc. Et en haut, il y a écrit « Bismillah ». Mais les Afghans n'utilisent pas le drapeau blanc. C'est juste les talibans. Le Pakistan, il était à côté de l'Afghanistan. On est parti là-bas et après, on est venu en France. Quand j'étais venu en France, j'avais 7 ans. Et maintenant, j'ai 9 ans. En France, à l'école, je suis en CM2. Ce que je préfère, c'est d'apprendre les poèmes, de travailler. Le français, j'aime, et de lire. J'aime lire. Je connais une poème. À quoi ça sert un poème? Ça sert à jouer. Comme on joue de la guitare, de flûte, du piano, ça sert à parler de soi ou bien de n'importe quoi. Au fond, ça ne sert à rien, mais ça remplace la vie plus belle comme un tour de magicien. Je sais pas qui l'a écrit. Et là-bas, quand j'étais en Afghanistan, dans l'école, les maîtres, ils tapaient les enfants. Si ils avaient pas bien appris et tout ça, ils lui tapaient. Monsieur Marchandor aussi, il disait que avant dans la France aussi, il tapait les maîtres, mais maintenant c'est bon, il tape pas. C'est plus mieux. Ce qui me manque dans l'Afghanistan, c'est de voir ma grand-mère, ma grand-père, mes cousins et l'Aïd. C'est comme vous faites la Noël et nous on fait l'Aïd. Ça me manque trop. Parce que ici, l'Aïd, le journée, c'est comme une journée normale. Mais nous, on fait la fête. Plus tard, je veux vivre à l'Afghanistan. Pour l'instant, c'est la guerre, mais on ne sait pas c'est quand la fin de la guerre. Je veux que la guerre, ça soit fini.
Je m'appelle Jeanne Durt, j'ai 10 ans, je suis en France depuis 2 ans, j'habite à Mortagne, en Normandie, je suis en CM2. J'ai grandi en Kaboul, en Afghanistan. Quand les talibans sont arrivés, c'était en 15 août 2021, je pense. Ce jour-là, il y avait des talibans partout dans les routes. Je me souviens qu'ils avaient des pistolets dans leurs mains. Tous les magasins étaient fermés. Avec ma mère, quand on est sortis, il n'y avait qu'un magasin qui était ouvert. Et on était allés partir là-bas pour acheter des trucs pour ma sœur. Parce qu'elle était tout petite, en fait, elle était née. Et j'entendais des armes tirer des gens pour rien. Et j'ai eu trop peur, je me suis fait cacher. Il y avait des tanks partout dans les rues. J'ai vu des gens courir partout pour aller dans leur maison. Tout le monde a eu peur à cause d'eux. À chaque fois que je sortais pour chercher quelque chose, bah je les voyais contrôler des gens. Il y avait partout dans les routes les talibans. Ils contrôlaient les voitures. Est-ce que tu as bu de l'alcool? Pourquoi tu es comme ça? Ou ils voyaient que les femmes, ils ont des voiles et tout. Mais si ils n'avaient pas ça, bah ils les mettaient en prison. Et si les garçons, ils n'avaient pas les cheveux coupés, c'est les talibans qui le faisaient. Ils leur rasaient la tête et ils leur tapaient, en fait. Je sais pas pourquoi, parce que c'est tout le temps comme ça, en fait, avec les talibans. Eux, ils ont les cheveux longs. Eux, ils mettent n'importe comment des habits. Et eux, ils peuvent montrer leurs jambes. Et ils ont des cheveux longs. Mais nous, on peut pas. Que faut se cacher, en fait. C'est ça. Et ils prennent des personnes, et ils les mettent en prison. Et après, ils obligent d'être des talibans, en fait. On était beaucoup en danger parce que mon père, c'était un journaliste. Et une fois, les talibans, ils sont venus chez nous juste pour contrôler. Ils pensaient que nous, on cache des trucs. Et aussi, ils ont ramené une femme pour nous contrôler parce que les talibans, ils ne veulent pas contrôler des femmes, en fait. Elle était habillée en noir. Elle avait une voile qui cachait tout, sauf ses yeux. Après, ses yeux aussi, elle s'est maquillée toute noire. Et après, ils ont parti, ils n'ont rien fait. Parfois, il y a des talibans qui donnent des argent à des parents et les parents, ils donnent leur fille à eux pour le marier. Donc, ils l'obligent de marier des talibans, en fait. Parfois, ils ont 15 ans, parfois 14, parfois 10 ans, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est venu en Pakistan, après en France. On voulait sauver nos vies. On voulait pas être comme les autres. C'est pas juste, en fait, pour... on n'a rien fait. Ils viennent faire n'importe quoi dans le pays. Après, ils vont rester comme ça. Je pense qu'ils vont jamais sortir. Ils vont rester là-bas. Ils vont tirer tous les gens. Et l'Afghanistan, ça va être, je pense, que pour les talibans, en fait.
C'était Les enfants de la guerre en Afghanistan, un reportage d'Alice Durieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à tous les enfants que nous avons rencontrés et à leurs familles, et notamment également aussi à Mathieu Marchadour, le fameux Monsieur Marchadour, à Amida Aman de Radio Begum, à Monsieur Gauthier du Collège Jacques Monod. Au Havre, c'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Mina Morel, notre stagiaire.
Culture.
Un peu de stoïcisme pour commencer cette nouvelle année.
Géraldine Mühlmann.
C'est peut-être opportun, enfin, c'est vous qui jugerez. Une sagesse du contrôle de soi, de la maîtrise, du respect de l'ordre du monde. Cette semaine, nous parlons des stoïciens, depuis la Grèce antique jusqu'à l'empereur romain Marc Aurèle, en passant par Sénèque, et bien sûr Épictète, esclave affranchi, dont l'enseignement, heureusement, a été retranscrit par ses disciples.
Avec philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6h30, 9h. Heading up for the East Coast, Lord knows I've paid some dues, getting through. Les matins de France Culture. Tangled up in blue. 2026, vu par des prix Nobel.
Bonjour et bonjour à tous. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs. Bonjour aux 104, car nous sommes en direct du studio 104 de la Maison de la Radio pour une matinale exceptionnelle 2026, vu par les prix Nobel, je crois que Jean Jouzel est en train de s'installer. Bonjour Jean, ça sera à nous dans quelques instants. Mais en attendant, il y a la merveilleuse Margot Delpierre à côté de moi. Et il est 6h30, c'est le premier journal de France Culture. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un haut diplomate vénézuélien témoigne au micro de notre envoyé spécial à la frontière colombienne. 4 jours après l'arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis, vous l'entendrez. 10 ans après le redécoupage des régions de France, quel bilan, il est contrasté. Le point dans ce journal.
Et dans un quart d'heure, nous serons avec Jean Jouzel, je vous l'ai dit, ancien vice-président du GIEC pour parler climat dans les chantiers de la recherche.
Le Venezuela va remettre jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis. C'est ce qu'a assuré Donald Trump hier. Le président américain répète être aux commandes du pays dont il a capturé samedi dernier le dirigeant Nicolas Maduro, accusé de dérive autoritaire et de narcoterrorisme par Washington. Mais la présidente par intérim Delcy Rodriguez assure qu'aucun agent extérieur ne gouverne Caracas. Le Venezuela a décrété dimanche l'état de commotion, mesure constitutionnelle qui autorise la détention de toute personne célébrant cette arrestation ou critiquant la politique du gouvernement. Autrement dit, rien n'a changé, ou presque. Olivier Poujade a recueilli le témoignage d'un haut diplomate vénézuélien.
C'est un fidèle de l'ancien leader Hugo Chavez. Vladimir Viegas résume en une seule phrase les failles révélées par l'opération militaire américaine.
Le rôle d'un informateur au sein du pouvoir, la passivité des forces armées, ce sont les grandes inconnues de cette opération.
Pour le reste, l'ancien ambassadeur ne voit aucune raison de s'inquiéter.
Le chavisme a su résister à des crises tout aussi graves comme celle d'avril 2002, quand l'ensemble du haut commandement militaire, ou presque, avait trahi Chavez. Le chavisme a su se maintenir unis.
Cette fois, derrière le spectacle militaire, il observe que les menaces de Donald Trump se sont rapidement estompées.
Ce ton de contremaître, de nouveau propriétaire du Venezuela, perçu dans les premières déclarations, a rapidement changé.
Vladimir Villegas préfère simplement parler d'une nouvelle séquence diplomatique entre les États-Unis et le Venezuela.
Il s'agit plus de pragmatisme désormais que de menaces. Le gouvernement de Delcy est confronté aujourd'hui à ce défi, trouver une politique pétrolière qui ne compromet pas la souveraineté du pays, c'est un défi très compliqué.
Un défi politique qui, s'il échoue, livrera le pays aux mains des forces armées, du ministre de la Défense, Padrino López, et des groupes paramilitaires contrôlés par le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, les deux autres personnages clés du régime vénézuélien.
Donald Trump qui menace toujours le Groenland. Avec son équipe, il affirme discuter de plusieurs options pour mettre la main sur ce territoire autonome, y compris l'armée américaine. Emmanuel Macron n'imagine pas les États-Unis violer la souveraineté danoise. Le chef de l'État organisait un sommet des alliés de l'Ukraine à Paris. Plusieurs milliers de soldats français pourraient être déployés pour maintenir la paix en Ukraine, selon lui. Les alliés de Kiev ont annoncé hier soir une série de garanties de sécurité robustes, dont le déploiement de cette force multinationale. Les détails à suivre dans le journal de 7h.
En attendant, il est 6h33 sur France Culture. Nous sommes en direct du studio 104 de la Maison de la Radio. C'est la suite de votre journal, Margot Delpierre. Et ça fait 10 ans, presque jour pour jour, que la France est passée de 22 à 13 régions.
Oui, un redécoupage voulu par le président de l'époque, François Hollande, pour renforcer les régions et accompagner la loi NOTRe pour nouvelle organisation territoriale de la République. Elle consistait notamment à donner la compétence de développement économique aux régions. 10 ans plus tard, le bilan est contrasté, Nicolas Ballu.
À entendre les présidents de région, la loi NOTRe est un succès.
On peut parler au monde entier au nom de la Normandie.
Pour Hervé Morin, le président de la région Normandie, la réunification de la Haute et la Basse Normandie, c'est un retour à l'histoire et des investissements.
On était trop petits. Grâce à la région Normandie, on a pu créer 2 facs de dentaire. Si je continue sur le champ de la santé, il n'y avait pas de formation d'audioprothésiste, d'orthoptiste, de pétigure podologue. On a créé toutes ces formations.
Les économies d'échelle permettent la gratuité des transports scolaires en Occitanie, met en avant sa présidente Carole Delga. Dans le Grand Est, Franck Leroy vante la fibre optique, des choix régionaux. Mais les budgets n'ont pas vraiment augmenté en conséquence. Pour le politologue Romain Pasquier, la réforme n'a pas fait avancer la décentralisation.
On reste sur le logiciel classique de la décentralisation française depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire que François Hollande poursuit le travail de Nicolas Sarkozy, comme Emmanuel Macron d'ailleurs poursuivra le travail de François Hollande en diminuant l'autonomie fiscale, notamment des départements et des régions. Mais à côté de ça, on essaye de les spécialiser dans un rôle en imaginant que c'est possible.
En l'occurrence, le développement économique pour les régions. Mais le millefeuille administratif existe toujours. Et si une grande région renforce la puissance de la commande publique, l'apport économique engendré par la loi NOTRe n'a pas réellement été évalué. En revanche, le redécoupage a eu un coût. À l'époque, André Valigny, le secrétaire d'État à la réforme territoriale, avait estimé que la réforme permettrait d'économiser 5 à 10 milliards d'euros par an. Au contraire, selon la Cour des comptes, les dépenses de fonctionnement des régions ont augmenté dans les régions fusionnées. Une autre pierre dans le jardin de celle-ci, d'autant que le sentiment de perte d'identité persiste pour ceux qui se retrouvent plus éloignés des centres de décision.
Presque deux semaines après sa mort, à 91 ans, les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront à partir de 11h à Saint-Tropez. Une cérémonie privée retransmise sur des écrans pour le public, à l'issue de laquelle l'actrice sera inhumée au cimetière marin. Cérémonie en présence notamment de la députée RN Marine Le Pen, d'amis et proches de l'icône du cinéma. Mais parmi les invités, a priori, ni acteur ni actrice de premier plan. Ce n'est pas étonnant pour Serge Toubiana, ancien critique de cinéma et ancien directeur de la Cinémathèque française.
La principale raison, c'est que Brigitte Bardot était très loin du monde du cinéma depuis 1973, l'année où elle a décidé de ne plus faire de films, de ne plus être actrice. L'autre raison, c'est que les obsèques prennent un caractère, disons, politique ou idéologique, ce qui fait que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas du tout et n'ont pas envie d'y participer. S'il y avait eu des obsèques nationales, ça aurait été différent, mais là, ce sont des obsèques privées, si vous voulez. Donc les gens se sentent moins concernés, les gens qui aiment le cinéma ou qui ont même admiré l'actrice, comme moi, par exemple. Les gens de cinéma qui étaient liés à Brigitte Bardot souvent sont morts, tout simplement. Je ne suis pas choqué par le fait que le monde du cinéma se tienne à distance parce que, au fond, on peut en comprendre les raisons. Et puis, c'est pas glorieux, quoi, d'avoir les figures de l'extrême droite à ses obsèques. Bon, ben voilà, ça marque définitivement, au fond, son appartenance à un camp politique et idéologique. Les obsèques sont privatisées, si vous voulez, par le milieu, la famille, les proches. Donc, des obsèques en peau de chagrin, quoi, voilà.
L'ancien directeur de la Cinémathèque française, Serge Toubiana, il répondait à Benoît Grossin. Un nouvel épisode de neige et verglas est attendu ce matin sur le nord et l'ouest de l'Hexagone. Météo France a placé 38 départements en vigilance orange, du Pas-de-Calais à la Charente-Maritime. Prudence, les intempéries ont fait au moins 5 morts sur les routes. Les autorités conseillent d'éviter tout déplacement en Île-de-France, de télétravailler si possible. 40% des vols devraient être annulés ce matin à Roissy, 25% à Orly. Il fera 0 degré cet après-midi à Reims et Lyon, 4 à Paris, 5 degrés à Toulouse, 10 à Biarritz. 6h37, c'est à vous Guillaume Erner.
Merci Margot Delpierre. Ça vous plaît votre nouveau studio ?
J'aime beaucoup.
Studio 104, il est très haut de plafond. Merci pour ces informations.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et voici la série Grand Reportage. Bonjour Aurélie Kiefer.
Bonjour Guillaume.
À Mayotte, les dégâts après le cyclone Chido sont notables. Sur les zones agricoles, la filière de la vanille se relève difficilement et la production de fruits et légumes reprend doucement.
Mayotte s'est dotée en 2023 d'un plan de souveraineté alimentaire, avec notamment pour objectif le développement de la volaille et l'autonomie alimentaire pour les fruits et légumes et les œufs. Ces ambitions ont été ruinées par le cyclone Chido et par la tempête Dikeledi qui l'a suivi. Les rafales de vent de plus de 200 km/h, puis les inondations, ont eu raison des cultures comme des bâtiments d'élevage. Selon le dernier recensement agricole, Mayotte comptait environ 4300 exploitations. L'immense majorité a été touchée. Le syndicat des jeunes agriculteurs évalue les pertes à 300 millions d'euros. Et seuls 15 millions d'euros ont été versés, notamment par la MSA, la Sécurité sociale agricole. Lola Fourmi a rencontré un agriculteur accompagné par une association d'entraide agricole. Sans ce soutien, il n'aurait pas pu se relever.
Bonjour. Bonjour. Enchantée Lola.
Je rencontre Mkadara Ibrahim, que tout le monde surnomme Loli, sur son exploitation de Barakani. Installé ici depuis 1998, il y cultivait principalement de la vanille avant que tout ne soit ravagé par le cyclone.
Quelles sont les conséquences que Chido a eues sur votre exploitation ?
Pas mal, pas mal. Primo, ma vanille est partie, tout est parti. Puis les bananiers sont tous partis. Les manioquis, tout est parti. Tout était parti. Ici, c'était comme là. Comme ici, propre, comme ça. Donc les 3500 pieds sont perdus. Là, j'ai rétabli, commencé à faire comme vous voyez, planter des petits bananiers là, pour avoir mangé donc, pendant la saison sèche mes animaux. Donc presque, j'ai rien. Donc au lieu de dormir, moi j'ai fait ça. Donc après demain, là, on va l'amener à la foire. Peut-être on va voir
quelques euros.
Quelques euros, voilà.
Est-ce que ce que vous vendez à la foire, ça vous suffit à vivre ?
Non, ça ne suffit pas. Mais juste uniquement pour moyen de vivre, c'est tout, mais ça ne suffit pas.
Et là, vous pensez qu'il va vous falloir combien de temps pour retrouver votre exploitation comme avant?
5 ans.
Heureusement, M. Kadara Ibrahim a reçu très rapidement l'aide de l'association MSADA Alima, qui signifie Entraide agricole en Chimaoré. Sidi Soufou est coordinateur socio-agricole au sein de cette association.
Plus de 90% des cultures, parce que dans les 90%, on n'a même pas inclué les vols qui sont faits au lendemain donc, du cyclone Chido. Donc si je puis dire, on peut arriver facilement aux 99% des pertes agricoles ici à Mayotte. On a déjà intervenu sur plus de 400 exploitations à Mayotte, notamment celles du nord, centre et sud de Mayotte, tout compris. Maintenant, on est sur la phase de plantation, mais beaucoup reste à faire parce qu'il y a la problématique donc, d'intrants qui manque à Mayotte. Les vols également ne sont pas donc, une réponse adaptée à ce système donc, d'exploitation.
Ils ont augmenté les vols?
Beaucoup ont augmenté parce qu'il faut penser à l'échelle de Mayotte. Il n'y a presque pas d'intrants. Donc les seuls intrants donc, existants qui sont déjà plantés, ils sont volés donc, au soir de la plantation. Donc les agriculteurs reviennent le lendemain, ils ne voient pas en fait ce qu'ils ont pu se semer la veille. Donc ça induit à des problèmes psychologiques, en plus donc de manque de moyens financiers qu'ils font face.
Au fil de notre découverte de l'exploitation, où les plants de vanille, vendus 500 euros le kilo, ont été remplacés par les pieds de salade ou de concombre, Madi Youssouf, lui aussi coordinateur socio-agricole de l'association MSADA Halima, se veut optimiste sur la reprise.
Il y a eu quand même des exploitants qui ont réussi à relancer leur production, parce que notre association, avec l'aide d'autres groupements, en fait, on fait le nécessaire pour que certains agriculteurs ils puissent retrouver quand même leurs exploitations. Parce que dans un premier temps, c'est d'avoir l'accessibilité à leurs exploitations, parce qu'avec le cyclone, en fait, nombreuses exploitations elles étaient inaccessibles. Donc rendre l'accessibilité, déblayer et retrouver une exploitation sur laquelle on pouvait planter quelque chose. Et ça commence petit à petit à repartir parce qu'il y en a quelques-uns qui ont planté des papayers, par exemple, depuis le début, enfin, un mois après le cyclone. Là, ils commencent déjà à récolter les fruits des... Voilà. Donc, c'est un exemple typique de culture, on va dire, qui ne demande pas beaucoup de rendement en eau, mais qui permet quand même d'avoir un minimum de revenus si... on met en place la production. On espère d'ici un an et demi ou deux ans que les exploitations, on va dire, vont avoir des beaux rendements et puis une agriculture plus encore soutenue. On espère entre 5 et 10 ans qu'on aura une nouvelle génération d'agriculteurs qui vont aimer l'agriculture parce que c'est un métier très passionnant. Ben, on le voit lui-même, il en témoigne que l'agriculture, avant le cyclone, lui faisait vivre et il n'avait pas besoin d'aller courir à droite à gauche, mais maintenant tout est au ralenti. Mais il n'abandonne pas parce qu'il aime la terre.
Pour moi, je n'abandonnerai jamais. Peut-être les jours finaux.
Pour s'en sortir, Mayotte mise sur le développement du tourisme. Nous y reviendrons dans le prochain épisode.
Merci Aurélie Kiefer.
6h30, 9h. Les matins de France Culture. 2026, vu par des prix Nobel.
Une matinale exceptionnelle en public dans le studio 104. Nous recevons Jean Jouzel. Bonjour Jean. Vous êtes paléoclimatologue, vous êtes ancien vice-président du GIEC et pour cela, vous avez reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Vous êtes également lauréat du prix Wettlesen 2012, l'équivalent du Nobel en sciences de la Terre et de l'univers. Peut-être un mot tout d'abord pour nous expliquer ce qu'est un paléoclimatologue.
Oui, peut-être. Bonjour Guillaume Herner. Pour vous saluer, pour saluer aussi tous les auditeurs et les auditrices, c'est une très belle matinée qui s'annonce. Et puis, bon, vous tous... dans le studio 104, c'est quand même très chaleureux malgré la hauteur de plafond. Un paléoclimatologue, eh bien, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'évolution passée de notre climat. Moi, ce qui m'a intéressé dans ma carrière, je l'ai commencé il y a maintenant 57 ans, en 1968, eh bien, c'est en quoi connaître l'évolution passée de notre climat nous apporte des informations pertinentes vis-à-vis de son évolution future. Voilà, par rapport à l'effet de serre, par rapport à l'existence de variations climatiques rapides, par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Si nous ne connaissions pas l'évolution passée de notre climat, nous ne serions pas en mesure vraiment d'appréhender correctement son évolution future. C'est ce qui m'a toujours animé tout au long de ma carrière de chercheur, dont je me suis consacré plus à la reconstruction des climats à partir des carottes glaciaires, avec des collègues comme Claude Lorius, donc à partir des glaces du Groenland, de l'Antarctique. Ça nous donne des informations sur l'effet de serre, sur tout ce qui vraiment concerne l'évolution du climat, des échelles de temps en particulier, je dirais sur le dernier million d'années.
Justement, avec Claude Lorius, vous avez publié une étude essentielle en 1987 qui a permis de comprendre les mécanismes du réchauffement. Sur quoi reposait-elle? Qu'est-ce qu'elle disait, cette étude, Jean Jouzet?
Oui, jusqu'en 87, nous parlions de l'effet de serre comme quelque chose d'assez théorique. Nous savions, le rapport Charnay nous disait clairement en 79 que si nous oublions la quantité de gaz carbonique, c'est le premier gaz à effet de serre dont nous modifions les quantités dans l'atmosphère par nos activités, eh bien nous irions vers des réchauffements de 3 degrés. Mais avec Claude Lorius et mes collègues grenoblois, Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola à l'époque, eh bien, nous avons été les premiers à montrer effectivement que sur notre planète, l'effet de serre avait un lien avec. Il y avait un lien entre climat et effet de serre, c'est-à-dire que pendant les périodes glaciaires, il y a moins de gaz carbonique, moins de méthane que pendant les périodes chaudes. Et puis, ça montrait aussi, là c'était sur 160 000 ans, ça montrait que ce que nous vivions en termes d'augmentation du gaz carbonique depuis 150 ans était exceptionnel par rapport à ce que notre planète avait vécu au cours des grands cycles glaciaires interglaciaires. Donc c'était effectivement la première fois que l'évidence, la réalité du réchauffement climatique était montrée clairement comme acteur, de l'évolution de notre climat.
Donc c'est une date essentielle, elle témoigne de l'importance de vos travaux, Jean Jouzel. À partir de quand on a été certain que le réchauffement climatique était une œuvre humaine?
Donc moi, je reviens toujours au rapport Charnay. J'étais déjà chercheur à cette époque-là, en 1979. Eh bien, les modélisateurs du climat nous disent que si on augmente la teneur des gaz à effet de serre, le gaz carbonique, le méthane, cette propriété de piéger une partie du rayonnement solaire réfléchit à la surface de la planète, eh bien, si on augmente en gros le chauffage, eh bien, la température va augmenter. C'est aussi simple que ça, je dirais, même si la machine est compliquée. Donc moi, j'étais convaincu de cette réalité. Effectivement, les travaux que nous avons conduits, renforcent cette prise de conscience, et ça a conduit en 88 à la création du GIEC et ensuite la Convention climat en 92. Ça va assez vite. Malheureusement, ça a ralenti par la suite et on voit
bien
qu'on
n'est pas... Pourquoi ça a ralenti justement alors que le consensus scientifique, il était en place?
Oui, effectivement, c'est une question, mais c'est peut-être parce que chacun d'entre nous, on est concerné. C'est bien, il ne faut pas toujours dire pourquoi les autres, mais... Ces émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même, je redis souvent, se déplacer, se nourrir, se loger, c'est les deux tiers de nos émissions. Donc on doit s'interroger d'abord par rapport à notre propre comportement. Évidemment, les décisions politiques doivent être là pour entraîner la machine. Elles étaient là au départ, les objectifs étaient, très, très clairement inscrits avec cet objectif de neutralité carbone, de stabiliser l'effet de serre. Malheureusement, eh bien, et puis il y a aussi, je dirais clairement, le lobby du pétrole. 80% de ces émissions sont liées à notre utilisation de combustibles fossiles. On voit bien où on en est aujourd'hui. On a beaucoup de difficultés à passer à autre chose.
Quelles sont les incertitudes qui demeurent malgré tout?
Oui, effectivement. Donc, nous avons d'abord des certitudes, je tiens à le dire. Donc, ce lien entre réchauffement climatique et effet de serre, le fait que nos activités sont de façon certaine à l'origine du réchauffement qui est de l'ordre de 1,5 degré actuellement. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous aimerions progresser. Par exemple, comment répond le climat à une augmentation de gaz carbonique? On parle de sensibilité du climat, un doublement de gaz carbonique, on parle d'un réchauffement de 3 degrés, mais ça peut être 2 ou 4, et c'est pas pareil. Donc voilà. Et puis aussi, Ce qu'on aimerait savoir, c'est bien d'avoir une valeur moyenne du réchauffement climatique, même, disons, dans laquelle on a confiance, mais les caractéristiques régionales du climat, disons, mériteraient effectivement d'être précisées, parce que quand on va parler d'adaptation, c'est ce qu'il faut savoir. Si vous êtes, le recul, par exemple, de l'enneigement, dans les régions côtières, l'augmentation de l'élévation du niveau de la mer qui s'accélère, tout ça, ce sont des conséquences qu'on aimerait, mieux préciser.
Jean, justement, puisque aujourd'hui il fait froid, il y a souvent des confusions qui sont faites entre météo et climat, et ça n'est pas inutile, je crois, d'y revenir.
Oui, ce qu'on vit aujourd'hui est tout à fait normal. Les périodes froides deviennent de moins en moins fréquentes, et c'est le cas. Cette période froide que nous connaissons n'est pas survenue depuis une quinzaine d'années. Donc c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, de plus en plus exceptionnel, mais il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas avec ces arrivées d'air froid qui nous viennent du Grand Nord. Ce qui nous intéresse en termes, c'est la température moyenne, et on voit bien que là encore, 2025 aura été la troisième année la plus chaude, ou la quatrième en France, je crois, la deuxième ou la troisième au niveau planétaire. C'est ce qui compte. Donc le réchauffement est bien là en température moyenne annuelle, localement, régionalement, et c'est pour ça qu'il faut connaître effectivement est-ce que ces périodes froides vont revenir, dans quelle région, et tout cela, c'est important. Donc ces caractéristiques régionales, c'est plutôt de la météo locale, les extrêmes climatiques. Il y a cette continuité entre les extrêmes climatiques, cette période froide par exemple, et le climat, c'est ce lien qu'il faut faire.
En conclusion, pour 2026, Jean Jouzel, qu'est-ce que l'on peut se souhaiter en matière climatique ?
Donc on peut se souhaiter peut-être moins d'événements extrêmes. Les conséquences du réchauffement climatique se font sentir à travers les événements extrêmes, les vagues de chaleur, les sécheresses à répétition, les cyclones qui viennent de plus en plus intenses, les précipitations également avec des risques d'inondation.
Merci beaucoup Jean Jouzel. Dans quelques secondes, Alexandra Delbeau, ça sera avec Science.
La Maison européenne de la photographie réunit deux maîtres de l'image. Edward Weston, pionnier du modernisme, a fait de la photographie un art de précision et de clarté, révélant la beauté des formes et des lumières. Tyler Mitchell, figure montante de la photographie contemporaine, explore l'autodétermination et l'extraordinaire beauté du quotidien. Edward Weston, modernité révélée, Tyler Mitchell, Wish This Was Real, jusqu'au 5 janvier 2026 à la MEP à Paris. Deux expositions France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
6h52, mais alors c'est vous Alexandra Delbeau, bonjour.
Bonjour.
Alexandra Delbeau, je ne savais pas que vous ressembliez à ça. Vous savez que ça c'est le studio 104, parce qu'on est en public, hein, Alexandra. Et ce matin, justement, dans notre matinale 2026, vue par des Nobel, vous voulez combler une absence, celle des femmes.
Oui, pourquoi y a-t-il si peu de femmes récompensées par le prix Nobel? Alors avant de commencer, j'ai une question à poser justement au public. J'espère que vous êtes bien réveillés. Dans la salle, qui peut citer en levant bien haut la main au moins une femme prix Nobel? D'accord. Baissez la main s'il s'agit de Marie Curie. Voilà, il n'y a plus de main levée. Ou s'il s'agit de sa fille.
Il y en a une.
Voilà, il y en a encore quelques-uns. Bon, c'est pas un hasard, parce qu'en fait, elles sont très peu nombreuses. En France, il y a Françoise Barré-Sinoussi, Emmanuelle Charpentier, Anne-Lily en sciences, et puis Esther Duflo en économie, Annie Ernaux en littérature. Vous avez déjà d'emblée plus de prix Nobel maintenant en tête. Au total, sur 972 lauréats en chair et en os depuis 1901, seules 68 étaient des femmes. Alors, pourquoi sont-elles si peu nombreuses? La première raison, c'est que les femmes ont eu accès plus tardivement aux sciences. Françoise Conant est chimiste, professeure à l'Université de Bretagne occidentale à Brest et présidente de l'association Femmes et Sciences.
C'est vrai que les femmes ont accédé tardivement aux études scientifiques. Quand on regarde dans l'histoire, le baccalauréat pour toutes 1924, l'accès aux études dans l'école d'ingénieurs, etc. Donc il est clair que c'était quand même beaucoup plus difficile pour une jeune femme d'embrasser des études scientifiques puis d'aller vers des carrières scientifiques. Donc je pense qu'au démarrage, il y avait un problème de vivier, mais je dirais que le problème n'est pas uniquement sur ce problème de vivier. Il y a aussi les problèmes liés aux stéréotypes. L'idée qu'une femme ne peut pas faire des sciences, etc., qui était quand même ancrée pendant longtemps dans l'esprit de beaucoup de monde.
S'ajoute à cela les inégalités de carrière entre hommes et femmes face au temps et aux contraintes. Parce que débuter une carrière scientifique, c'est une chose, continuer et évoluer, c'en est une autre, notamment en ayant une vie de famille et surtout des enfants.
Je ne peux pas oublier des témoignages que j'ai reçus de femmes qui, débutant une carrière scientifique comme chercheuse, par exemple, s'entendaient dire « bon, un enfant, mais pas plus ». Et c'est vrai que le poids de la maternité par rapport à mener une carrière, ça peut être un frein. Quand on regarde les données, pour les études, les filles réussissent très bien, même souvent mieux que les garçons. On le voit au sortir du baccalauréat, on le voit jusqu'au niveau Bac plus 5, et après, on voit une diminution du nombre de femmes dans les effectifs études doctorales et puis dans les métiers de la recherche, etc. Ou des jeunes femmes aussi qui quittent leur profession parce qu'elles ont du mal à évoluer, je dirais, de façon sereine et au même titre que leurs collègues masculins.
Mécaniquement, s'il y a moins de femmes scientifiques qui ont du temps pour penser et mener à bien leurs expériences, eh bien, il y a moins de femmes qui font de grandes découvertes et donc moins de lauréates du prix Nobel. Et puis, troisième raison, encore plus insidieuse, c'est l'effet Matilda. Ce phénomène désigne la tendance à minimiser, voire à invisibiliser les réalisations des femmes, un biais que l'on retrouve dans tous les domaines et donc dans l'attribution des prix Nobel.
Un des exemples qui est souvent cité, c'est le cas de Jocelyne Bell, la première à avoir détecté les pulsars lors de la préparation de sa thèse de doctorat et au moment de l'attribution du prix Nobel qui a été complètement ignoré, notamment par son directeur de recherche qui n'a pas du tout mentionné son rôle. Bon, ensuite, ça a été corrigé, mais c'est un exemple parmi d'autres. Plus récemment entendu, Rosalind Lee, l'épouse de Victor Ambrose, n'a pas été honoré du prix Nobel, alors que Victor Ambrose, son mari, mais au départ son directeur de recherche, lui a eu le prix Nobel, sachant que Rosaline était quand même le premier auteur des travaux qui étaient cités par le comité Nobel.
Alors que faire? Le comité Nobel ne souhaite pas mettre en place de parité pour ses prix, mais on peut envisager des solutions à plusieurs niveaux. D'abord, être vigilant à remettre ce prix aux premières autrices des papiers scientifiques majeurs et pas seulement aux directeurs de thèse et de recherche. Ensuite, susciter des vocations par les sciences aux filles pour les pousser vers ces métiers, comme le projet Les Sciences XXL, 2LES, porté par l'association Femmes et Sciences. Et puis bien sûr, les épauler, les soutenir, les accompagner dans la poursuite de cette voie. Finalement, c'est donner aux femmes l'envie, le temps, l'espace et la légitimité nécessaires pour qu'elles aient non pas plus, mais autant de chances que les hommes de faire de grandes découvertes et donc de décrocher ce fameux prix.
Merci beaucoup Alexandra Delbeau. On se retrouve tout à l'heure, Alexandra, parce que nous aurons donc d'autres prix Nobel, Michel Devoré, Alain Aspect, et vous allez nous accompagner toute cette matinale. En attendant, on va parler d'une grande prix Nobel de la paix. Et oui, ce matin, nous devions recevoir la journaliste et fervente défenseure des droits humains, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023. Celle-ci a été arrêtée le 12 décembre dernier en Iran par le régime des Mollahs. Et c'est donc son avocate qui la représente ici, Shirin Arkadani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour cette matinale spéciale Nobel et je vais vous céder mon humeur du matin. Nous vous écoutons, Shirin.
Lettre à ma cliente, adresse inconnue, objet bis repetita. Ma chère Narges, voilà 23 jours que nous sommes sans nouvelles de toi. Au dernier et bref coup de fil autorisé, tu as dit « J'ai peu de temps, ils nous ont arrêtés et battus, dites au monde ce qu'il se passe ici. » Quelques jours auparavant, tu répétais le discours que tu avais écrit mais dans ta tête, pour dénoncer la mort suspecte d'un opposant au gouvernement tyrannique, misogyne et clérical, comme tu l'appelles. Sans laisser de traces, c'est toujours ainsi qu'on milite en République islamique, quand certains écrits vous valent l'échafaud. Pour atteindre Machad, tu as pris la route, les aéroports, ce n'est pas sûr, pour qui a encore 10 ans à purger. Sans grande conviction, nous t'avons dit de prendre garde à toi, les gardes, il y en avait en nombre ce matin-là. Déployés devant la mosquée où se tenaient les funérailles qui ont viré comme toujours depuis qu'ils nous ont pris Jinnah Mahsa en meeting anti-régime,
Nous vous regardons en face et nous n'avons pas peur de vous, as-tu dit, avant qu'il mène la charge, te roue de coups, toi et tes collègues. Vous vous teniez là en mémoire d'un défenseur, de ceux qui n'ont plus de voix. Il s'appelait Khosro Ali Kordi, il était avocat et il est mort, comme tant d'autres, pour avoir exigé la liberté. Comme toi, ils sont 39 à pourrir à présent dans la prison politique. Nous savons les mots qui vous accablent, la torture blanche, les interrogatoires jour et nuit, les coups, les humiliations, mais... Depuis 10 jours, dans le vacarme des cris et des coups sur les portes, du fond de votre cachot, vous entendez la foule qui gronde au dehors, mort au dictateur. Les étudiants sur les barricades, les ouvriers, les vieilles dames et même les bazaris, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre la cellule voisine. Ensemble, vous entonnez l'hymne de votre victoire, ici. Nous poursuivons la mobilisation pour appeler à votre libération à tous, mais tu sais... De ce côté-là